La Société historique de Montréal présente Nouveau regard sur notre histoire, une émission signée Jean-Charles Désiel. Bonjour Madame, Monsieur et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. Aujourd'hui, deux sujets au menu. Tout d'abord, un premier entretien de Laurier Lacroix avec Michel Lessard, historien de l'art québécois, grand collectionneur et auteur de plusieurs ouvrages sur les objets antiques du Québec et l'histoire de la photographie. Et en deuxième partie, la remise du prix Esdras Mainville de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à notre collègue, l'historien Robert Comeau, en hommage à sa carrière d'universitaire et de communicateur.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous entreprenons ce matin un voyage à travers le temps en compagnie de Michel Lessard, mémoire vivante de l'histoire du Québec telle qu'elle se manifeste à travers ses objets, ses coutumes, ses traditions. Ethnologue, muséologue, scénariste et historien de l'art, on pourrait en ajouter encore, Michel Lessard est un citoyen engagé dans nos communautés. Michel Lessard, bonjour.
Bonjour, Laurier.
Comme nous nous sommes fréquentés à l'UQAM une dizaine d'années, je vais me permettre de te tutoyer.
On se tutoie donc.
Très bien. Pour débuter, Michel Lessard, j'aimerais te lancer sur une question pas très savante, mais qui est à l'image de ton talent de communicateur. Question qui est le fait d'une observation de ton parcours que je lis comme une suite d'histoires d'amour. Serait-ce exact de dire que ta carrière est le fait d'une suite de passions, passions qui se nourrissent d'une certaine manière à ton enfance, à ta jeunesse à Lauzon, et au fait d'avoir grandi dans cette communauté et étudié au Collège de Lévis. Est-ce que c'est exact?
Oui, je pense beaucoup, finalement. J'ai vécu dans un milieu d'ouvriers à Lauzon. Mon père était patron de l'énergie à la Lévis, à Lauzon, grand chantier maritime. Il a passé sa vie dans les chantiers. Et donc, c'est d'avoir eu la passion des bateaux, du fleuve. J'étais sur le bord de l'eau. Mon père m'amenait les dimanches me promener parce qu'il était le patron, donc il avait plein de choses à vérifier. Dans ce chantier maritime, je descendais dans les cales sèches. J'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, et je voyais ces immenses bateaux qui tenaient sur des bains. Alors, il y a tout le monde de la navigation, tout le monde du fleuve, tout le monde de la pêche aussi, que j'ai beaucoup aimé. Comme il était patron et de l'électricité, alors à Lauzon, l'automne, il faisait installer par ses employés des immenses spotlights de 1000 watts sur le bord des quais. Et on allait à la pêche à l'Éperlan. Il m'avait amené, j'avais 8-9 ans, pour la première fois. Ma mère m'avait bien habillé. Et en l'espace d'une demi-heure, on remplissait des paniers de très belles éperlans. Mais on n'était pas seuls. Alors, il y avait tous les patrons du chantier qui étaient là pour venir pêcher le jeudi, parce que le vendredi, c'était jour maigre. Et donc, tout le monde, dans la rue que j'habitais, faisait cuire de l'éperlan, voilà.
L'éperlan frais. Mais aussi, je pense, un amour des coutumes et des traditions qui vient du côté de tes oncles, de tes tantes et de tes grands-parents, que tu as bien connus.
C'est ça. Ma mère était d'une famille de 20 enfants. Elle s'appelait Marie-Alexandrine Poulain. Et ma grand-mère, Zélie Tardy, a donné naissance donc à 20 enfants, dont ma mère. Et son mari, à ma grand-mère, qui est décédée en 76 à 104 ans, est décédé, lui, en 1918, de la grippe espagnole. Donc, il l'a laissé avec 20 enfants sur les bras, finalement, et c'est l'aîné qui a repris le patrimoine, qui est un patrimoine presque de colonisation, pour continuer la suite, défricher la terre, etc. Alors moi, j'ai été initié à cet univers-là. Je nais en 1942, et finalement, à partir de 7-8 ans, je vais à la maison paternelle, la maison ancestrale, et finalement, je vis le schéma autarcique agricole avec ces gens-là. Alors, mon oncle Tancrède, qui est finalement le vieillard au regard bleu qui monte la garde, comme dit Félix Leclerc, il faisait tout. Il élevait des vaches et des moutons, des porcs, des poules, des coqs. Il y avait un potager, un verger, etc. C'était l'autarcie presque en totalité. Alors que finalement, dans la ville d'où j'étais, je voyais tranquillement se développer finalement toute l'urbanisation du Québec. Finalement, on était galopant à ce moment-là après la Deuxième Guerre mondiale. Alors donc, j'ai vécu sur ces deux axes-là, l'axe de l'urbanité et l'axe de la ruralité, mais traditionnelle, conservée à Saint-Jules-de-Beauce, dans un rang, par finalement mon oncle Tancred. Voilà.
Donc, est-ce que tu dirais que c'est de cette double connaissance à la fois de justement d'un Québec moderne et d'un Québec traditionnel qui t'a façonné, qui t'a...
Absolument, absolument.
Défini ce que tu es.
J'ai toujours été préoccupé par la vie rurale traditionnelle. Je l'ai vue, je l'ai photographiée. J'ai amené des caméras chez mes grands-parents, à la maison paternelle. Et ça m'a donné le goût, à un moment donné, dans les années 70, de développer une grande série pour Radio-Canada qui s'appelait Un pays, un goût, une manière, où j'ai essayé de retrouver des gens qui vivaient encore en autarcie et qui possédaient tous ces savoirs traditionnels de fabrication de tout, finalement, qui servaient tous leurs besoins en faisant les choses eux-mêmes. Mais en même temps, j'étais, après la Deuxième Guerre mondiale, dans un univers de développement urbain avec la banlieue qui apparaît, avec finalement tous les systèmes de bungalows. En 53, mon père, il construit sa maison et il construit un bungalow dans la tradition américaine, mais bien sûr, il fait comme on a toujours fait. Il prend son crayon, puis il change le plan, puis il met à notre goût. Parce qu'on a déjà déterminé un type de maison chez nous. On connaît un aménagement qui nous plaît bien, qui est à notre goût et à notre manière. Alors, il trace les nouveaux éléments de sa maison et il construit son bungalow. Mais avant de le construire, j'avais à ce moment-là peut-être 10 ans, 12 ans, on visite des développements domiciliaires partout, en banlieue de Lévis, en banlieue de Québec. On voit ma mère qui s'esclave devant les belles salles de bain qui apparaissent dans le décor, etc. Et un jour, la mairesse de Sainte-Foy m'appelle dans les années 1999 et elle me dit, « Monsieur Lessard, on ferme Sainte-Foy dans 2 ans, en 2002, et on aimerait beaucoup que vous fassiez l'histoire de Sainte-Foy. » Sainte-Foy, c'était 1500 ou 2000 habitants en 1945. Et quand on a fermé la ville, c'était 10 paroisses et aux alentours de 80 000 habitants. Alors, la ville s'est développée comme un champignon ou comme 10 champignons avec 10 églises, 10 presbytères, 10 petits noyaux institutionnels, etc. Mais il y a toute cette dynamique-là qui a fait que on est embarqué finalement dans l'American Way of Life beaucoup, à notre manière à nous, et dans ce qu'on appelle le style de vie à l'américaine finalement beaucoup. Mm-hmm. Alors donc, j'ai raconté dans un très beau livre qui s'appelle Sainte-Foy, mais le vrai titre, et c'est la mairesse qui a payé le livre, qui a coûté 400-500 000 $. Le vrai titre, c'est « L'art de vivre en banlieue au Québec ». J'ai fait de l'ethnographie ou de l'ethnologie contemporaine pour expliquer ce qu'a été cette période de 1945 jusqu'à 1980-90 à peu près.
Cette mairesse qui mérite qu'on la nomme, la mairesse Boucher.
Oui, Mme Boucher.
Qui a laissé sa trace dans l'histoire de la ville de Québec et de Sainte-Foy.
Oui, exact.
Également.
Oui.
Alors, si on prenait tes passions dans l'ordre... parce qu'on reviendra à toutes ces réalisations que tu as évoquées. Il y en a une qui traverse ta vie, c'est à partir du premier livre que tu publies en 71, l'Encyclopédie des Antiquités du Québec, 3 siècles de production artisanale, et tu vas revenir sur ce sujet-là dans plusieurs ouvrages, et en 2007, sur la nouvelle Encyclopédie des Antiquités du Québec. Tu as une conception très particulière d'antiquité. Tu aimes bien définir les choses. Qu'est-ce que tu entends, toi, par antiquité?
Moi, j'entends tous les objets anciens qui ont servi, finalement, au vécu depuis le début du pays jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, on dit que pour qu'on appelle un objet ancien... D'abord, le mot « antiquité » au pluriel, ça n'existe pas. C'est une invention québécoise. Alors, tout ce qui est objet qui a servi à la vie sociale, la vie culturelle, la vie technologique, etc., entre dans ma définition de l'objet ancien. Donc, c'est très vaste. Ça inclut toutes les périodes, ça inclut tous les axes d'influence culturelle. Les Amérindiens qui nous ont légué beaucoup de choses, beaucoup de savoirs, peu de traces physiques. Après ça, la France, l'Angleterre, les États-Unis et bien sûr les différents groupes, communautés culturelles qui sont apparues, surtout au début du 20e siècle, mais aussi, je pense à Yvan Lamonde, mon ami Yvan Lamonde, il y a aussi tous les biens religieux. Parmi les réseaux d'influence culturelle qu'on joue au Québec, il y a Rome, finalement. Et Rome, il est présent dans tous les villages avec, finalement, un édifice qui est en connexion avec l'univers céleste, qui s'appelle l'Église avec son clocher, qui est une antenne pour communiquer avec les divinités.
Je sais une église au fond de l'amour, dont le fin clocher se mire dans l'eau.
Donc, ça embrasse plusieurs cultures, ça embrasse une période très, très longue, puisqu'on va du début de la colonie, même avant, jusqu'à une période très récente.
Oui, et ça concerne autant les biens de la grande bourgeoisie, comme ça concerne les biens des gens les plus humbles, finalement, qui vont satisfaire leurs besoins en fabriquant eux-mêmes les objets de leur quotidien. Une table, des chaises, un lit, etc. Des outils aussi avec le forgeron du village, etc. Alors, il y a une stratigraphie dans la lecture des objets. Mais moi, je ne suis pas venu aux objets nécessairement par amour de l'objet au départ. J'avais un oncle, frère, ma tante Aimée, qui était la sœur de ma mère, avait marié un nommé Doyon. Et M. Doyon, il s'appelait Raymond, il habitait à Saint-Jules-de-Beauce, on est dans les années 50. Lui, il ratissait la campagne, il avait abandonné un peu l'agriculture, il y avait un moulin de siège à côté de la maison, puis bon, c'était un gars qui pigassait un peu dans le niveau industriel autarcique d'un rang ou d'une partie extérieure de village. Lui, il ratissait la campagne, puis il ramassait des objets, parce que déjà, depuis les années 30, on s'intéressait dans les villes, dont Montréal et Québec, aux objets anciens. Alors, il ratissait la campagne, puis il ramassait des vieux gramophones, des vieux poêles à bois, des fers à repasser anciens, des gros disques en vinyle, des rouleaux, finalement. Et puis, il alimentait le marché de Québec et de Montréal. Puis, quand on allait chez lui le dimanche après-midi, il nous faisait faire le tour de sa grange qui était recyclé en entrepôt pour toutes les choses qu'il avait découvertes. Puis moi, j'étais petit gars, là, j'avais 7-8 ans, puis il nous présentait je regardais ces objets-là, comme des insectes spécialisés. Je me demandais à quoi ça pouvait bien servir. Il y avait des lunettes télescopiques pour regarder en 3 dimensions. Il y avait des orgues domestiques, etc. Alors, c'était mon premier contact avec les objets anciens. Puis finalement, je suis venu aux objets anciens quand j'ai mené mes études universitaires. J'enseignais dans une école normale. Et dans une école normale, j'enseignais l'art d'enseigner l'histoire. J'enseignais la didactique et la méthodologie d'histoire. Et dans les années 70, où j'enseignais dans les écoles normales, c'était l'époque où on réfléchissait sur de nouvelles manières d'enseigner l'histoire aux enfants, parce qu'on intègre ces notions de temps et d'espace vers l'âge de 10 à 12 ans. Et finalement, il faut que tu utilises un certain... C'est abstrait, le temps. Hein? Et l'espace aussi, c'est abstrait. Donc, il faut qu'on développe des nouveaux moyens pour leur permettre d'acquérir les connaissances. Alors, c'est à l'époque qu'on renouvelait, au fond, le regard là-dessus. On développait une approche inductive. Partir d'aujourd'hui, mm-hmm. pour aller vers l'hier, finalement, et on voit qu'il y a un flux, là. Alors, j'avais préparé pour mes normaliennes, parce que c'était une école normale de filles. Il y avait plein de belles filles autour de moi, qui étaient à peu près de mon âge, d'ailleurs. Et j'avais préparé sur Gestetner des listes d'objets, des fers à repasser, du parent, du grand-parent, de l'arrière-grand-parent, bon, la maison d'aujourd'hui, maison de 50 ans, maison des grands-parents, etc. Et finalement, j'avais accumulé comme ça pendant les quelques années que j'étais à l'école normale un intérêt pour les objets, mais dans l'approche psychopédagogique suivant une approche inductive d'enseignement. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est extraordinaire ce que tu as là. » On était en pleine révolution tranquille. Il y avait un très vif intérêt pour l'objet ancien. J'étais pas un collectionneur encore. Puis j'avais amené mes gens aussi très souvent en excursion sur la côte de Beaupré, à l'île d'Orléans. Je rentrais dans des boutiques de forge. Je leur présentais, il y avait encore des belles boutiques traditionnelles avec le soufflet de cuir, etc. J'allais chez les antiquaires, je faisais des photos, etc. Alors, à un moment donné, quelqu'un me dit, en 69, 70, « Tout ce matériel-là, là, tu sais que tu pourrais faire un beau livre sur les objets. » Je n'avais pas pensé à ça.
Ah bon?
C'est une bonne idée. Je ramasse tout mon matériel, je le mets dans 2 boîtes, puis je me mène à Montréal, aux Éditions de l'Homme. Parce que les Éditions de l'Homme, c'était une grande maison populaire. Il y avait 5 à 6 000 points de vente. Et je trouvais que, finalement, bon, le livre que je voulais faire, je voulais qu'il circule. Alors, finalement, c'est Alain Stanquet qui m'a accueilli à Montréal, avec Pierre L'Espérance, qui dirigeait la boîte. Puis eux autres, ils ont vu tout de suite. J'avais même pas imaginé ça. On va faire une encyclopédie des Antiquités du Québec. Bon. Alors, finalement, j'ai traité le matériel pour faire un livre dans cette perspective-là, où on parle du meuble, on parle des objets de céramique, de verre, des armes à feu, de l'ensemble des champs d'objets. Mais j'innovais en rien. Je faisais juste ramasser des oui-dire de ce que les antiquaires me disaient. Il y avait eu le livre de Palardier en 63 sur le meuble, un livre luxueux, etc., avec une approche très particulière. Mais ça, c'était surtout pour les gens très favorisés pour accueillir ces biens-là, puis aussi très instruits. Mais il y avait une grande curiosité collective des gens. Et il y avait le livre de Robert Lionel Séguin en 67, « La vie traditionnelle de l'habitant au 17e, 18e siècle » chez Fidesz, qui avait aussi connu un très grand succès. Mais ça, c'était une lecture des archives. Il n'y avait rien de concret. C'était un livre aussi d'intellectuel. Alors, c'est pas ce que je faisais aux Éditions de l'Homme. Les Éditions de l'Homme, ils faisaient des livres de recettes. Ils faisaient des affaires, des toutes sortes d'affaires qui étaient liées finalement avec les vedettes, etc. Alors, ils ont pris le livre. Nous avons travaillé ensemble et nous avons publié en 71 l'Encyclopédie des Antiquités du Québec. Moi, je parle toujours de ça comme mes péchés de jeunesse. Je savais rien, d'ailleurs, ou à peu près. Mais ça condensait à peu près le savoir d'une époque. Alors, finalement, au bout de 2 semaines, je rencontre une de mes collègues à l'école normale qui me dit « Est-ce que tu as lu la presse? » J'ai dit « Non, je lis pas la presse, on lit le soleil chez moi, puis le devoir. » Alors, l'Action catholique, je devrais dire. Et finalement, elle a dit « Tes premiers best-sellers. » J'ai dit « C'est quoi ça, best-sellers? » Elle a dit « T'es le premier vendeur. » J'avais jamais pensé que ça allait être un succès. Au bout de 2 mois, on a réimprimé 5000 copies, puis ça a été comme ça toute l'année. Je suis resté 1 an au palmarès. Voyant le succès du livre, que pensez-vous que Stanquet et L'Espérance ont fait aux Éditions de l'Homme? Ils m'ont demandé d'en faire un deuxième, mais cette fois sur la maison. On en parlera plus tard.
On y vient bientôt, mais juste pour conclure ce chant, parce que je pense que c'est important que les auditeurs qui ont la plupart doivent avoir chez eux encore ce livre-là, qui est une espèce de Bible.
Ah oui, puis ça, c'est sacré.
Oui, oui. c'est pour rappeler justement que à la fois, comme tu l'as dit, il y a les différents types de matériaux, mais aussi les différentes fonctions des objets qui sont représentés. Et donc, il n'y a pas de sacralité dans les objets chez toi. Tous les objets ont un rôle.
Ont un rôle à jouer.
Une fonction, un message.
Oui.
Et tu les présentes finalement sur le même pied d'égalité. Je pense que c'est ça aussi qui faisait l'intérêt, la nouveauté. C'est qu'entre la radio en bakélite ou, en fait, ça va venir un peu plus tard, mais les fers à repasser, prenons cet exemple-là, c'était pas que le plus ancien. Il y avait aussi celui qui est électrique, qui pouvait être valorisé, etc. Donc, tu avais une approche très ouverte par rapport aux objets.
Je présentais toujours les différentes facettes du discours de l'objet, la facette technique, comment c'est fait cette affaire-là, la facette sociologique, qu'est-ce que c'est qu'il l'a utilisé. Après ça, il y avait la facette encore plus sociologique, c'est-à-dire quelle strate de la société. Prenons la poupée. Bien, la poupée d'un habitant qui avait pas de sous, c'était une poupée qui gossait finalement avec son couteau, il faisait une tête, puis il achetait au magasin général des petits membres en porcelaine, puis la madame cousait ça, puis elle l'habillait, puis elle faisait une petite poupée. Mais les gens qui avaient beaucoup de sous, ils faisaient venir ou achetaient des belles poupées chez Morgan à Montréal, ou les faisaient venir dans le catalogue Eaton, ou des grands catalogues de commerce, et ils achetaient ces poupées-là qui arrivaient de France ou d'Allemagne. Ce qui fait que dans la culture québécoise, on retrouve toutes les dimensions et on est très ouvert sur le monde. Les marchands anglais qui étaient à Québec ou à Montréal ou qui étaient branchés souvent dans la campagne, ils travaillaient tout le temps avec le commerce de Grande-Bretagne et ils faisaient venir plein de choses. Finalement, on est un port de mer. Faut jamais oublier qu'on est la mer à Québec, hein, avec le fleuve qui nous connecte aux grandes mers de la planète. Alors, on recevait des choses de partout. Alors, il y a un certain nombre de discours de l'objet, ethnographique aussi, à quoi ça sert, comment on l'utilise, etc. Quand on me demande d'analyser un objet, j'appliquais ces 5 ou 6 grilles-là. Je pouvais disserter pendant 1/2 à 1 heure sur un même objet pour l'expliquer. Voilà.
Mmh. Oui, donc toute la richesse que porte justement, et c'est ça qui t'a intéressé. On y reviendra parce que la nouvelle encyclopédie des Antiquités du Québec, peut-être qu'on peut en dire un mot maintenant, revise ce propos-là, mais l'élargit encore davantage avec des moyens techniques pour l'illustration en couleur et la qualité de la photo qu'on n'avait pas dans l'édition de 77. En 71, pardon, en 2007, là, tu vas produire un livre.
C'est deux mondes.
Oui.
Autant l'autre, le premier, l'encyclopédie de 71, c'est un péché de jeunesse, autant...
Mais là, pour un péché, il faut être conscient qu'on fait du mal. Là, tu pensais pas que tu faisais du mal, je crois.
Non, mais aujourd'hui, quand je relis ça... Finalement, compte tenu, parce que j'ai évolué, moi, comme tout le monde.
Voilà.
On a tous évolué au Québec. La muséologie s'est développée. Elle est née, d'ailleurs, puis elle a galopé au cours de la période dans laquelle j'ai travaillé. Alors, le discours que je pouvais tenir en 71 et le discours en 2005 avec la nouvelle encyclopédie, c'est deux mondes.
Mm-hmm. Et là, la technologie, la qualité de l'imprimerie, tout ça va être au service de cet nouvel outil. Mais le propos reste aussi ouvert qu'il était déjà... En fait, tu avais semé la bonne graine en 71, finalement.
Rappelons que notre invité, Michel Lessard, a reçu en 1996 le prix Gérard Morissette, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans le domaine du patrimoine. Il est maintenant retraité et résident de Lévis, en banlieue de Québec. Un colloque portant son nom et dont le thème était « La culture populaire » avait lieu le 27 février dernier. Il s'entretient avec Laurier Lacroix.
Et donc, il y a une nouvelle commande qui arrive pour l'architecture, pour la maison, le lieu où sont la plupart de ces objets dont tu as traité dans le premier ouvrage. Et l'architecture domestique, on peut dire, va être un autre volet qui va traverser toute ta vie, qui va traverser toute ta carrière. On pense donc à ce premier livre, l'Encyclopédie de la maison québécoise, en 72.
Que j'ai fait avec Gilles Villandré, un architecte urbaniste qui avait 15 d'années de plus que moi et qui était un immense professionnel. Un immense professionnel.
Donc, un collaborateur de première main. Et là, encore une fois, tu abordes la maison d'une manière, le titre Encyclopédie le dit, d'une manière très vague, très généreuse, en essayant de couvrir justement tous les aspects de la lecture de la maison. Et donc là, tu avais plus tes fiches pour t'aider à faire cette maison-là. Comment s'est arrivé cet ouvrage sur l'encyclopédie de la maison québécoise?
Encore une fois, ça s'inscrit dans mon parcours pédagogique. Ça, c'était un des objets que j'avais analysé pour mes maîtresses d'école. Et je leur avais montré comment, au fond, recréer l'histoire de tout un village simplement en le marchant. Un village, l'architecture des maisons dans un village, c'est un grand livre d'histoire. Aujourd'hui, je peux vous marcher n'importe quel village, je sais rien sur le village, mais je vais vous raconter l'histoire du village. Il va manquer des dates puis des noms, pas important, mais je vais vous dire comment cette société a évolué, comment elle a été inventive, quels sont les réseaux d'influence culturelle qui ont joué, quels sont les matériaux, quel était l'état technologique, etc. Pourquoi est-ce que cet état technologique est arrivé jusque dans la campagne? Quel a été le rôle du presbytère construit par un architecte de la ville et monté par les habitants qui, en voyant le beau presbytère arriver, la grande bourgeoisie s'est dit « Je vais essayer d'en faire un pareil pour nous autres, etc. » Alors, il y a toutes sortes de choses qui se tissent en bout de piste avec cette promenade que j'ai faite avec un grand... Même mes étudiants de l'UQAM, quand je suis prof à l'UQAM, je vais faire des excursions à Québec, c'est à la côte de Beaupré, puis à l'île d'Orléans. Puis je vais même les amener à Grosse-Île. Je vais les amener sur le Saint-Laurent avec quatre profs, un en géographie, un autre en biologie marine, en histoire. Yvan Fortier de Parc Canada en ethnographie du site, et comme historien du site. Et on va les passer une journée. Alors, j'ai beaucoup aimé ce type de travail sur le terrain avec les jeunes pour leur montrer les choses, leur faire toucher les choses, etc.
Donc, c'est la même idée pédagogique qui traverse...
Qui joue tout le temps, absolument, ouais.
Et là encore, dans la présentation de la maison, parce que nous, comme lecteurs, quand on lit l'encyclopédie, on n'est pas nécessairement avec toi en train de faire le tour du village, mais on comprend à la fois les différents types de maisons, les différentes techniques de construction, l'histoire de cette évolution-là, l'esthétique également. Donc, tu tresses plusieurs champs, plusieurs disciplines en même temps, finalement. Et ça, c'est ton métier d'historien qui t'a appris ça? Ou comment t'as eu cette intuition que l'objet était aussi riche, aussi porteur que ça?
Je pense que j'ai toujours questionné les objets par rapport à l'invention du pays. Les Français qui arrivent ici au 17e siècle, à partir de 1608, disons avec Champlain, qui était un petit peu avant en Acadie, etc., ils arrivent dans un pays neuf. Il faut qu'ils réfléchissent. Ils ont une culture propre en Normandie, en Bretagne, dans le Poitou, dans l'Île-de-France, etc. Et il faut que, finalement, ils rencontrent un pays sauvage qui possède des étés torrides ou chauds, puis des hivers rigoureux. C'est la cadence climatique qui joue très fort chez nous. Donc, il va falloir qu'ils s'organisent pour repenser tout. La première chose, ils vont développer un cadastre parce qu'on est dans la vastitude, puis il faut qu'on lotisse, puis qu'on lotisse de façon intelligente pour être proche l'un de l'autre, puis en même temps avoir des capacités d'être sur le bord de l'eau, puis d'avoir une forêt en bois de boue à l'extrémité, des longues terres rectangulaires. Après ça, il va falloir qu'on repense la maison. La maison française avec des arbres. J'ai vu à l'île d'Orléans des cheminées qui avaient ma hauteur. On rentre dans la cheminée, et finalement, il y a la crémaillère qui est là, il y a l'anse pour accrocher le chaudron, puis à la zone pour faire le feu. Puis quand tu lèves la tête, tu vois dehors. Tu vois par la lumière de la cheminée, ça s'appelle une lumière, la partie vide, tu vois dehors. Alors, nos ancêtres, ils ont un bout de temps chauffé le temps et chauffé le dehors, comme on dit. La première industrie qui va se développer au Québec en 1733, c'est les forges de Saint-Maurice. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des feux fermés, finalement, puis on va tranquillement rapetisser l'art. Alors, tout cet apprentissage du pays, ça m'a toujours interpellé et ça m'a amené à questionner aussi toutes les contributions, qu'est-ce que les Amérindiens nous ont amené au niveau de des techniques de construction? Comment ils construisaient, eux autres? Puis comment on construisait en France? Puis comment on a changé nos modes de construction? Qu'est-ce qu'on a utilisé de ces savoirs-là? Après ça, on a dû aussi rencontrer toutes sortes d'autres facettes jusqu'à temps qu'on mette au point une maison qui nous est propre. Ça apparaît dans la période néoclassique, vers 1820. On abandonne la maison à toit pentu, tout en pierre, avec des fenêtres limitées. Il y avait peut-être 7, 8, 10 fenêtres au maximum. Et là, c'est la belle maison néoclassique dégagée du sol, avec son toit en accent circonflexe, à la chinoise, comme on le trouve dans certains actes notariés de 1830, comme l'a signalé Paul-Louis Martin dans un remarquable travail sur le sujet, dans la région de Trois-Rivières. Et finalement, c'est une maison qui possède, pour la cadence climatique, la grande maison puis la petite maison d'été à côté. Alors, quand arrive le printemps, on fait le grand ménage, et on déménage dans la maison d'été, on va les coucher à l'intérieur de la grande maison, mais la grande maison, elle ne sert plus. Finalement, des fois, même on en loue. On la loue à
des estivants.
Des estivants, oui. Et finalement, on reste dans la petite cuisine d'été ou dans une petite cuisine d'été qui n'est pas tout à fait connectée directement à la maison. Et une maison qui s'ouvre au niveau des espaces, c'est la salle commune qui domine. On rayonne dans les chambres, puis dans la grande chambre qui est le salon, qui apparaît en 1820. Vers 1820, on met au point une maison qui nous est propre, à notre goût et à notre manière. Elle sert parfaitement tous nos besoins. On a une grande galerie couverte pour regarder boire ses champs quand on est un agriculteur ou si on est un retraité au village. On regarde passer les voitures ou l'hiver, les carrioles avec chacun sa sonnette. Juste à la sonnette, on sait très bien qui s'en vient en voiture. Et finalement, cette maison, elle ne changera plus au niveau. Pierre Thibault, l'architecte contemporain qui travaille à Québec, qui fait des maisons très contemporaines avec des matériaux neufs qui n'ont rien à voir avec le toit pentu traditionnel, il fait des maisons éminemment québécoises. Depuis 1820, on a gardé tous ces paramètres-là, sauf qu'il y a des moments où les influences anglaises et américaines vont jouer, où là, on cloisonne tout. Tout est fermé avec des corridors, puis des portes, puis etc. Mais de façon générale, dans notre système à nous, québécois francophones, on va évoluer à partir de ce schéma-là qu'on met au point en 1820, à partir de l'héritage français, parce que je peux l'expliquer, la maison de 1820, comment on la sort, on la modèle à partir de ce qu'on a fait, finalement, de l'héritage français. Alors, on va se mettre au point une maison, et tout ce qu'on va changer, c'est le costume de la maison, le style, la forme. Je me suis construit une maison en 75, avec Gilles Villandré comme architecte. Et bien sûr, à l'époque, ma maison a été présentée dans le décor. Les gens s'imaginaient que j'avais une maison à toit pentu, que j'avais copié une maison traditionnelle, etc. L'architecture, ça va par en avant, ça va pas par en arrière. C'est un grand médium de création. Alors, on a fait une maison avec un toit plat, mais avec toutes sortes de caractéristiques dégagées du sol, une grande galerie qui flotte. J'avais acheté 3 érablières, on pouvait faire ça dans le temps, mais plus aujourd'hui. Et j'ai construit une maison très moderne, avec des matériaux modernes, au cœur d'une forêt. Et le plus beau moment de cette aventure-là avec Villandré, on avait marché la forêt pendant les 4 saisons. Puis à un moment donné, en hiver, on était en raquette, il me dit, la maison, on la met ici. Elle va être orientée comme ça, sa façade va être là. L'ouverture va être l'orientation logique, elle va être comme ça, etc. Il implantait la maison. Ce geste-là d'un architecte, implanter une maison, décider... D'abord, il avait déjà réfléchi à tout son aménagement intérieur, à l'esprit des choses, mais dans l'élan traditionnel, finalement, l'ouverture des espaces, l'ouverture à la présence du feu était très important, la cheminée, en plein cœur de la maison. Alors, ce geste-là d'implanter une maison, c'est un geste incroyable, de très grande force. Villandré me disait, quand tu es capable de faire une maison qui fait bien à quelqu'un ou à une famille, il n'y a plus rien... Tu peux relever tous les défis, faire des hôpitaux, des écoles, n'importe quoi. Il n'y a plus aucun problème. Tu sais comment ça marche, finalement, les choses. Alors donc, j'ai toujours cherché à comprendre, au fond, comment nous étions ajustés au pays neuf. On s'est inventé des voitures hippomobiles pour l'été et pour l'hiver. La carriole, déjà en 1704, il y a des carrioles chez Audette à Saint-François de l'île d'Orléans. On s'est inventé des vêtements pour la cadence climatique. On s'est inventé des techniques de conservation des aliments. On s'est inventé de nouvelles techniques pour élever les animaux, l'élevage. Et quand on additionne tous ces éléments-là, c'est ça qui me fascinait, au fond, et c'est ce que la culture matérielle peut nous révéler. Quand on additionne tous ces éléments d'invention qu'on s'est fait depuis le début du pays, eh bien, on constate qu'on a inventé un pays. Et c'est pour ça qu'on veut le garder. Moi, j'ai essayé toute ma vie de montrer à quel point on avait été inventif. Mais pas juste dans les objets, mais au niveau du patrimoine immatériel, au niveau du conte. On a repris des contes européens ou des contes irlandais ou des contes écossais, etc. Et on les a assaisonnés à notre réalité, finalement. Et on a fait ça dans tous les domaines. Alors, grande partie du travail, ça a été pour montrer qu'on a inventé un pays et qu'on devrait en être fier. Toute ma vie, j'ai vendu de la fierté aux Québécois.
Pour conclure cette première émission, Michel Lessard, est-ce qu'il y aurait un thème musical, un air que tu aimerais entendre?
Tout ce qui concerne l'hiver, moi, je suis un grand fan de l'hiver. Je ne vais pas dans le sud, l'hiver. L'hiver est tellement extraordinaire, mais l'hiver de l'éveillé Et les chansons de Gilles Vigneault autour de l'hiver, ça aussi, ça m'attire énormément comme musique. Quand il fait des grandes tempêtes, j'habite sur la falaise de Lévis, sur le bord du fleuve en face de Québec. Ma maison est vitrée, finalement, grandement vitrée. Et je m'assois dans la fenêtre, puis je contemple l'hiver.
Alors, on l'écoute maintenant. Merci, Michel Lessard.
Merci, Laurier. Au revoir.
S'abrège, viennent les vents et les neiges, viennent l'hiver en manteau de froid, viennent l'envers des étés du roi. Mais
secret de l'univers pour y vivre le pays qui nous appelle à ciel ouvert, hors du temps, au gré de l'espace, fiers de nos corps plus beaux, éternels comme froids et glaces, seuls comme des oiseaux.
Vienne la blanche semaine.
Laurier Lacroix s'entretenait avec l'historien de l'art et grand collectionneur Michel Lessard. Nous diffuserons la suite de cet entretien lors d'une prochaine émission. Vous écoutez Nouveaux regards sur notre histoire sur les ondes de Radio-VM. Voici maintenant quelques extraits d'une cérémonie qui avait lieu le 13 février dernier au cours de laquelle M. Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, décernait le prix Esdras Mainville à notre collègue, l'historien Robert Comeau. Et c'est M. Claude Corbeau, à titre de recteur de l'Université du Québec à Montréal, pendant plusieurs années, qui fut invité à présenter la carrière universitaire du professeur Robert Comeau et son implication dans la vie intellectuelle québécoise à l'occasion de la remise de ce prix.
Alors, distingués invités, chers amis, bienvenue à la maison de Luigi Duvernay, que je suis certain que pour la plupart d'entre vous, elle ne vous est pas étrangère. Maison Luigi Duvernay, ce carrefour par excellence de nos débats, de nos combats, et où chaque jour retentit la parole libre. Nous sommes réunis ce soir afin de rendre hommage à un intellectuel, un historien, un professeur, un éditeur, un militant, bref, un homme de lumière qui aura consacré sa carrière à nous faire mieux comprendre ce qu'est le Québec. Décidément, c'est faire honneur à la mémoire du grand Esdras Mainville que de remettre le prix qui porte son nom, à un citoyen d'exception qui, comme lui, aura joué un rôle structurant dans l'avancement de la connaissance sur notre condition nationale. C'est donc à l'unanimité que le Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a résolu de décerner le Grand Prix Esdras Mainville au professeur et jusqu'à tout récemment président de la Société historique, M. Robert Comeau. À titre personnel, je dois dire que j'en suis particulièrement heureux puisque depuis plus d'une dizaine d'années déjà, eh bien, j'ai eu la chance de côtoyer notre récipiendaire dans le cadre de nombreuses activités de toutes sortes, en plus de siéger à ses côtés, que ce soit à la Société ou encore à la Fondation du Prêt d'honneur, qui en partie, sous l'influence de Robert, est devenue la Fondation Maurice Séguin. Ce fut chaque fois une expérience non seulement agréable, mais également inspirante, vu la vivacité de cœur et d'esprit de cet homme dont la passion est contagieuse. Par ailleurs, je ne compte plus le nombre, vous savez, d'ouvrages, de revues, de livres, de textes, portant la signature Comeau, qui se trouve dans ma bibliothèque. Véritable biologiste de la nation québécoise, géographe du pays espéré, cartographe de nos cheminements collectifs, Robert Comeau se sera aussi imposé depuis des décennies en meneur et rassembleur des forces vives du monde académique québécois. Et cela, parfois, envers et contre certains courants, plus ou moins hostiles, disons, à l'idée que le Québec, comme intérêt de recherche, puisse jamais être à la mode. Car c'est presque un tabou, là, dans les milieux universitaires, mais quiconque s'y aventure le moindrement sait bien la maigreur, hélas, des ressources disponibles pour faire avancer un tant soit peu la recherche sur quelque objet de nature nationale. En histoire, en sciences politiques, en droit, en sociologie, en philosophie, et j'en passe, le phénomène québécois se voit de plus en plus éclipsé, loin derrière les étoiles de nos idéologues qui, post-structurellement, dominent la mode universitaire. Manifestement, une bonne partie de notre propre intelligentsia semble vivre ailleurs dans sa tête, ailleurs qu'au Québec, et l'air peut-être en quête de nouvelles métropoles verdoyantes de la pensée. New York, Boston, Chicago, Toronto, et in English, bien sûr. Et toujours est-il que notre récipiendaire, vous savez, au-delà de sa dimension proprement universitaire et académique, son combat, eh bien, en est un de résistance. Son œuvre en est une de résistance. Sa posture, sa vision constituent donc un modèle pour les prochaines générations de chercheurs et de professeurs. Alors, mon cher Robert, nous te saluons, nous te remercions. Et bon, ce sera bientôt à ton tour de nous parler d'amour, mais patience, parce qu'on t'a réservé quelques surprises encore. Alors, je vous remercie beaucoup. Vive l'indépendance intellectuelle du peuple québécois. Vive le Québec libre. Merci.
Alors, Monsieur le Président, cher Robert Comeau, Monsieur le Président, quand vous m'avez invité à vous présenter la carrière universitaire du professeur Robert Comeau et son implication dans la vie intellectuelle québécoise à l'occasion de la remise de ce prix, vous avez évoqué le fait qu'à titre de recteur de l'UQAM, je l'avais bien connu. C'est tout à fait exact. Je l'ai souvent vu à l'œuvre dans la vie de l'université. J'ai eu l'occasion de le soutenir dans des projets institutionnels communs. Et c'est pour cela que j'ai accepté l'invitation. Et je le fais avec grand plaisir. Et quand je pense à la carrière de Robert Comeau comme professeur à l'UQAM de 1969 à 2006, et aussi à ses engagements professionnels des 15 dernières années, il me semble que la cohérence et le sens de son engagement de professeur et d'intellectuel se trouve sur un terrain où convergent, où se confirment réciproquement et où s'épanouissent trois passions qui le caractérisent. Le professeur Robert Comeau a été et demeure un historien passionné, un animateur passionné et un diffuseur passionné. La passion professionnelle et même personnelle première de Robert Comeau a été l'histoire et évidemment l'histoire du Québec. Une telle passion historienne naît bien sûr d'une passion encore plus profonde pour le Québec. À mes yeux, La passion historienne de Robert Como s'est traduite de trois manières complémentaires. D'une part, pendant près de 40 ans, il a initié des étudiantes et des étudiants à l'histoire du Québec et du Canada depuis 1867 en particulier. À chacun de ses cours, et on lui confiait des groupes imposants d'étudiants et d'étudiantes, à chacun de ses cours, il a tiré une grande satisfaction personnelle de l'initiation incontournable qu'il leur apportait à l'histoire du Québec. Et il a donné ce cours pendant de nombreuses années sans jamais se lasser. Ce sont les cours sur l'histoire du Québec qui l'ont véritablement le plus intéressé. Il les a donnés avec enthousiasme. Et ça a été, je pense, pour lui l'occasion de poursuivre et de partager avec ses étudiants et ses étudiantes une méditation sur le parcours historique tortueux, torturé et toujours inachevé de la nation. Enfin, Robert Como a mené un effort soutenu, on l'a mentionné, pour assurer la présence et la valorisation dans la formation universitaire en histoire de l'histoire proprement politique à une époque où les conceptions dominantes de l'historiographie préconisaient de prioriser d'autres dimensions que la dimension politique, pourtant si centrale dans la vie des nations. Et pour illustrer l'ardeur de son engagement dans l'enseignement d'histoire du Québec, il a assumé au fil des ans la direction ou la co-direction de pas moins de 68 mémoires de maîtrise et de 11 thèses de doctorat, ce qui n'est pas un mince accomplissement. Et les collègues de l'UQAM et d'autres universités qui sont dans cette salle vont apprécier le labeur que cela représente. Et on n'a pas compté les étudiants et les étudiantes qui ne se sont pas rendus à terme. Au cours de sa carrière, par l'enseignement, par l'organisation de colloques, par la direction ou la co-direction d'une trentaine d'ouvrages collectifs, Robert Como s'est aussi intéressé à l'histoire du Québec selon plusieurs thèmes ou objets d'étude. Il a considéré les personnages politiques de Jean Lesage et Robert Bourassa, Gérald Godin et Marcel Masse. Il s'est intéressé à des institutions majeures, d'Hydro-Québec au Journal de Devoir, en passant par la CSN ou la FTQ. Il s'est intéressé à des mouvements politiques. On cite par exemple son histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois. Et aussi, il s'est impliqué dans des enjeux historiographiques, par exemple, en examinant et en faisant connaître l'œuvre de Maurice Séguin. Voilà pour l'historien passionné. J'ai évoqué l'implication de Robert Como dans l'organisation de colloques. Il s'est en effet engagé comme directeur ou co-directeur dans l'organisation de très nombreux colloques, dont la grande majorité de la quinzaine des colloques de l'UQAM sur les leaders du Québec contemporain, ce dont je lui suis personnellement très reconnaissant. Ce type d'engagement professionnel dans les colloques met en lumière ce que j'appelle son rôle d'animateur passionné de la vie intellectuelle québécoise dans et hors le cadre universitaire. Pour avoir vu souvent Robert Como immergé dans l'organisation de colloques universitaires, je puis témoigner de la profondeur, de la force de son engagement, de sa passion comme diffuseur de connaissances. Il a été aussi cofondateur à l'UQAM en 2003 et titulaire de la chaire Hector Fabre en histoire du Québec. Il a joué un rôle significatif dans la création de regroupements de vie scientifique et intellectuelle au Québec. Je pense à l'Association d'histoire politique du Québec en 1992, à la Société du patrimoine politique du Québec en 2001 et à la Coalition pour l'enseignement d'histoire en 2009, associations dans lesquelles il a assumé des responsabilités à la fois de pression, de motivation intellectuelle et scientifique et des responsabilités de direction. Et il me plaît enfin de mettre en lumière son rôle de diffuseur tout aussi passionné des connaissances sur l'histoire du Québec. J'en veux pour preuve d'abord la détermination avec laquelle il a veillé à assurer la publication des actes de nombreux colloques qu'il avait dirigés ou co-dirigés. Il l'a fait à répétition, ça explique ses cheveux blancs, il l'a fait à répétition dans le but de donner une pérennité à des événements qui, une fois les propos finis, souvent sont oubliés. Cette passion de diffusion du savoir historique a pris d'autres formes. Par exemple, de 1987 à 2012, il a contribué à mettre au monde une centaine d'ouvrages comme directeur de la collection Études québécoises chez VLB. Il a dirigé, de 1994 à 2012, le bulletin d'histoire politique que publie l'Association d'histoire politique du Québec et publié régulièrement un bulletin scientifique avec des contributions de qualité, demande de l'énergie, de la ténacité, de la vision, et il en a amplement fait la démonstration. Dans cette perspective de diffusion, il a organisé pendant une décennie les lundis d'histoire politique. Il a mené une maison d'édition lui-même entre 1995 et 2000, et depuis 2010, il anime à Radio Ville-Marie l'émission « Nouveau regard sur notre histoire ». C'est à la lumière de ce genre de réalisation que je définis aussi Robert Comeau comme un diffuseur passionné de la connaissance de l'histoire québécoise. Permettez-moi une dernière observation. Notre récipiendaire, on l'a dit, a été professeur à l'Université du Québec à Montréal. Cette université, et il y était au tout début, cette université, depuis ses origines, a voulu explorer des domaines de formation et de recherche nouveaux ou négligés. Histoire du Québec. Elle a voulu développer l'accessibilité au savoir. Elle a voulu démocratiser la connaissance dans la société. Comme historien passionné, comme animateur passionné, comme diffuseur passionné, Robert Comeau, j'ai plaisir à le dire, ayant été un peu associé moi-même à l'UQAM, Robert Comeau a épousé très fidèlement des valeurs fondamentales qui demeurent actuelles et il a très bien servi son institution. Alors, mon cher Robert, tu es vraiment peiné merenti des patriotes. Je t'en félicite chaleureusement et j'espère que tu vas déguster cette soirée complètement. Merci et bravo.
Nous venons d'entendre quelques extraits d'une cérémonie au cours de laquelle le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal remettait le prix Esdras Mainville à notre collègue, l'historien Robert Comeau, en hommage à sa carrière d'universitaire et de communicateur. Alors, Madame, Monsieur, ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org en un mot et sans accent. Un grand merci à Mathieu Gauthier-Pilote, chargé de projet numérique à la Fondation Lionel Groulx, qui a la responsabilité de transférer chacune de ces émissions sur le site Internet de la Société. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une belle et bonne journée et qui vous invite à un autre rendez-vous, même heure, même poste, avec notre histoire et nos racines.